Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale, 21h à Paris, 20h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
La piste d'un rendez-vous entre président russe et américain prend de l'épaisseur. Vladimir Poutine s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump pour évoquer la guerre en Ukraine. Les autorités de Kiev refusent toute négociation en leur absence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime ce soir que le dirigeant russe essaie de manipuler son homologue américain. Une deuxième salve de libération d'otages du Hamas. Demain, le groupe islamiste a révélé aujourd'hui l'identité des 4 soldats concernés. 3 femmes avaient déjà été relâchées le week-end dernier en échange de prisonniers palestiniens conformément à la trêve en vigueur à Gaza. Serge Atlaoui, lui, aura passé 17 ans dans le couloir de la mort en Indonésie. Le Français, accusé de trafic de drogue, va finalement être rapatrié dans le cadre d'un accord trouvé entre les deux pays. Et puis la justice espagnole donne raison à une mère célibataire en lui octroyant un double congé maternité. L'hypothèse d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump s'affine. Ce vendredi, le président russe s'est dit prêt à des négociations sur le conflit en Ukraine avec son homologue américain. De quoi faire bondir les responsables ukrainiens. Ils refusent tout pourparler sans eux. Ce soir, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse même Vladimir Poutine de vouloir manipuler Donald Trump. Aucune date pour cette éventuelle entrevue n'est pour le moment annoncée, mais la rumeur s'intensifie donc, Pierre-Olivier.
Depuis plusieurs heures, les présidents russes et américains échangent par déclaration interposée sur une possible rencontre pour régler le conflit en Ukraine. Lors d'une interview à la télévision russe, Vladimir Poutine a choisi de se mettre ouvertement en position de dialogue, en allant jusqu'à louer le caractère pragmatique et intelligent de son homologue américain. Le président russe va même plus loin, dans le sens du narratif de Donald Trump, estimant que si ce dernier ne s'était pas fait, je cite, « voler la victoire en 2020 », il n'y aurait probablement pas eu la crise qui a touché l'Ukraine. Une volonté de dialogue clairement affichée donc par le Kremlin et qui semble faire tache d'huile de l'autre côté de l'Atlantique. Ce jeudi, toujours, Donald Trump a fait savoir à des journalistes qu'il verrait Vladimir Poutine dès que possible, regrettant que chaque jour où les deux hommes ne se rencontrent pas, des soldats meurent sur le champ de bataille. Dans l'attente d'une future négociation, Kiev en revanche craint d'être mis à l'écart. Vladimir Poutine veut parler de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine, cela n'aura pas lieu, a mis en garde la présidence ukrainienne.
Explication signée Pierre-Olivier. Donald Trump, qui a choisi un territoire ennemi pour son premier déplacement en tant que président. Après une étape en Caroline du Nord, le président américain se rend en Californie, un bastion démocrate, un état meurtri aussi par d'immenses feux, à Los Angeles notamment. Sauf qu'à l'avenir, si de nouvelles catastrophes de ce type se reproduisent, la Californie pourrait ne plus bénéficier de l'aide de la FEMA. Donald Trump a annoncé aujourd'hui vouloir peut-être signer un décret pour supprimer ou réformer profondément l'Agence fédérale de réponse aux ouragans, incendies et autres désastres naturels. Et parmi ces très nombreux décrets signés par le dirigeant conservateur depuis son investiture, l'un d'eux impose aux agences fédérales de mettre fin au programme de diversité, équité et inclusion. C'est-à-dire que les personnes noires, latino, LGBT+, ou encore celles atteintes de handicap ne bénéficieront plus de mesures de discrimination positive. Plusieurs entreprises américaines ont aussi fait ce choix récemment, mais quelques-unes, au contraire, font de la résistance. C'est le cas des supermarchés Costco, Justine Fontaine.
C'est la 3e chaîne de supermarchés du pays, 200 000 salariés aux États-Unis, et ses actionnaires ont voté hier jeudi à 98% pour garder en l'état la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Un vote conforme à la volonté de la direction qui faisait face à une motion déposée par un groupe de pression conservateur. D'après ce groupe, les mesures pro-diversité sont un risque financier pour l'entreprise car des hommes blancs pourraient attaquer en justice Costco pour discrimination. Le groupe de pression s'appuie principalement sur une décision de la Cour suprême en 2023 qui a remis en cause la discrimination positive à l'université. Un retour de bâton conservateur au détriment des acquis du mouvement des droits civiques et plus récemment du mouvement Black Lives Matter en 2020. De nombreuses grandes entreprises comme Walmart, Amazon, Boeing ou encore Meta ont ainsi annoncé ces derniers mois qu'elles abandonnaient tout ou partie de leur politique de diversité. Dans ce paysage, Costco fait donc bien figure d'exception, avec les dirigeants d'Apple qui refusent eux aussi pour l'instant de revenir sur leur politique d'inclusion.
Justine Fontaine à Washington qui va continuer à chapeauter le retrait des troupes israéliennes hors du Liban. Et cela prendra plus que les 60 jours prévus par l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah, signé fin novembre. C'est le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui l'a indiqué aujourd'hui. Selon le communiqué, le Liban n'a pas respecté totalement cet accord. Israël estime qu'en effet, que l'armée libanaise n'a pas investi toutes les zones du sud Liban d'où le Hezbollah doit se retirer. L'autre trêve impliquant Israël, en vigueur cette fois depuis dimanche dernier, elle concerne Gaza. Et aujourd'hui, le Hamas a révélé les noms des 4 soldats libérés demain. Le forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Au total, 33 otages du 7 octobre 2023 doivent être relâchés en échange de quelques 1900 prisonniers palestiniens, et ce, durant ces 6 semaines de cessez-le-feu. Et puis ce soir, l'autorité palestinienne annonce, elle, que 2 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne confirme de son côté avoir frappé une cellule dite terroriste. Le bombardement a eu lieu non loin de Jénine, où les soldats israéliens mènent depuis maintenant 4 jours une opération militaire. Lui dit avoir été victime d'un imbroglio qui a failli le conduire à la mort. Le français Serge Atlaoui va finalement être transféré depuis l'Indonésie vers la France, 17 ans après sa condamnation à mort pour trafic de drogue. Les 2 pays ont annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord pour sa libération, Gaëtan Plenet.
Serge Atlaoui devrait être de retour en France le 4 février après 17 ans dans les couloirs de la mort en Indonésie. Cet artisan soudeur de 61 ans, père de 4 enfants, avait été arrêté en banlieue de Jakarta en 2005 dans un laboratoire clandestin de fabrication d'extasie. Les autorités l'accusaient d'être un chimiste. Lui s'est toujours défendu d'être un trafiquant, affirmant qu'il ne faisait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. Initialement condamné à la prison à vie, sa peine avait été alourdie en appel par la Cour suprême qui l'avait condamné à la peine capitale. Il devait être exécuté en 2015, mais sous la pression de la diplomatie française, les autorités indonésiennes lui avaient laissé un sursis. Le mois dernier, Paris a fait une demande officielle de transfert pour Serge Atlaoui suite au rapatriement en décembre d'une Philippine et de 5 Australiens dans leur pays d'origine. Un accord a donc aussi été trouvé entre la France et l'Indonésie. L'Indonésie où plus de 90 étrangers sont condamnés à la peine capitale pour trafic de drogue.
Gaëtan Plenet, il veut grignoter un peu plus les droits des femmes en Argentine. Le ministre de la Justice a annoncé aujourd'hui souhaiter supprimer la notion pénale de féminicide. La veille, le président conservateur Javier Milei avait déclaré, lui, depuis le Forum économique de Davos, que ce concept de féminicide légalisait le fait que la vie d'une femme vaut plus que celle d'un homme. Ce projet législatif a des chances modérées d'aboutir toutefois, étant donné que le groupe ultralibéral du président est minoritaire au Parlement. En Espagne, en revanche, une victoire juridique pour les mères célibataires dans le sud-est du pays, dans la région de Murcie. Un tribunal a donné raison à une mère seule en lui autorisant un congé parental doublé. Cela correspond au sien, auquel s'ajoute celui dont aurait bénéficié son conjoint si elle avait été en couple. Retour sur cette avancée avec François Musso.
Une mère célibataire de Murcie, région proche de l'Andalousie, devait normalement bénéficier d'un congé maternité de 16 semaines, conformément à la loi. Or non, cette femme s'est vue accorder par un juge de cette région un congé parental de 32 semaines, soit le double. Pourquoi ? Le magistrat estime que cette mère célibataire devait aussi avoir droit à la période de congé dont aurait bénéficié son conjoint, si elle en avait eu. Cette nouveauté provient d'une décision historique rendue par le tribunal suprême du 6 novembre dernier et qui part du droit des enfants. Ce tribunal a estimé qu'il y a actuellement une inégalité de traitement entre les enfants de familles biparentales et ceux de familles monoparentales, ces dernières étant manifestement lésées. Depuis lors, une mère célibataire qui a porté plainte a obtenu 24 semaines de congé au lieu de 16 dans la région de Valladolid, et à la mi-décembre, c'est au tour d'une autre mère célibataire de Guadalajara d'avoir obtenu 26 semaines et une indemnité de 2000 euros. On devrait donc désormais assister à une multiplication de ces décisions dans ce pays qui est aussi un des premiers à avoir légalisé les congés paternité. François Musso, Madrid, RFI.
Et puis en tennis, Yannick Sinner en mode rouleau compresseur pour aller défendre son titre à l'Open d'Australie. L'Italien a balayé l'Américain Ben Shelton en 3-7 ce matin en demi. Novak Djokovic lui a dû abandonner après avoir perdu la première manche et laisse donc filer l'Allemand Alexander Zverev en finale. Elle aura lieu dimanche. C'est la fin de ce journal sur RFI, 21h10 à Paris, 20h10 temps universel.